Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes, Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs en mars quand nos consultants sont là, comme d'habitude, pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Nkwatine depuis Boïko au Bénin. Élisée, bonsoir.
Yacouba et bonsoir à tous.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué en direct depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous retrouvons Amdinsi à Columbus, c'est dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Amdin, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Nous parlons, merci à tous déjà de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir bien évidemment de la Coupe du Monde féminine Australie-Nouvelle-Zélande 2023. L'Afrique n'a plus qu'un représentant. En huitième de finale de ce mondial féminin, il s'agit du Maroc qui affronte demain, mardi, la France. En huitième donc, les Lions de l'Atlas ont fait un parcours remarquable jusqu'ici et veulent rêver, nous dit Amin Birouk.
C'est un moment unique pour l'histoire du football féminin au Maroc avec cette qualification historique pour le deuxième tour de la Coupe du Monde. Qui l'eût cru au début de la compétition? Qui l'eût cru? Tout simplement au moment du tirage au sort, lorsque les Lions de l'Atlas se sont retrouvés dans un groupe, vous étiez dans le chapeau 4, derrière la toute puissante Allemagne, et des puissances émergentes comme la Corée du Sud et la Colombie, vice-championne de la Copa América. La première défaite, ou la défaite 6-0 contre l'Allemagne, a tiré la sonnette d'alarme. Et c'est une équipe remobilisée qui a su, au mental, avec du talent, de la qualité, du sacrifice, de l'abnégation, faire le dos rond et se relancer avec une victoire face à la Corée du Sud 1-0, surtout avec ce succès au forceps devant la Colombie 1-0. Les circonstances aidant, les Marocaines se retrouvent donc en huitième de finale de la compétition, avec pour enjeu maintenant et pour objectif de battre l'équipe de France. Une rencontre qui aura une dimension symbolique, à géométrie variable, puisque 6 joueuses de l'équipe du Maroc sont des binationales. Du côté de l'équipe de France, Sakina Karchaoui, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, est née de parents marocains. Il y a Reynald Pedros qui a entraîné l'Olympique Lyonnais, qui connaît évidemment de très nombreuses joueuses, qu'il a eu le privilège de coacher, et notamment en Champions League. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr Hervé Renard, qui a des attaches sportives et sentimentales, puisqu'il a été le sélectionneur du Maroc entre 2016 et 2019. Voilà tout autant donc d'arguments pour pouvoir suivre avec intérêt cette rencontre, où les cœurs des Marocains battront la chamade. Tous les Marocains prieront pour que ces Lions de l'Atlas continuent cette aventure et puissent écrire non seulement une page, mais un nouveau chapitre de l'histoire de l'émancipation de la femme par le football ou par le sport à travers cette Coupe du Monde.
Alors Jules, on l'a bien compris, cette rencontre va au-delà du football. Est-ce que les Marocaines peuvent se tirer d'affaire?
Mais bien sûr, déjà que, comme l'a dit Amine, elles sortent de l'enfant, elles se retrouvent dans une situation favorable qu'elles n'espéraient pas vivre. Donc, à partir de ce moment, elles n'ont rien à perdre. C'est elles des outsiders, ce sont les Françaises qui ont plutôt la pression sur le dos. Et en plus de cela, elles rencontrent une équipe qui joue dans leur registre. Contrairement à l'Allemagne en ouverture où la puissance physique des Allemandes a fait des dégâts. Ici, que ce soit par la suite contre les Coréennes ou contre les Colombiennes, qui jouent un peu de la même manière que les Méditerranéennes, et les joueuses marocaines s'en sont sorties. La France est aussi dans ce style, même si ici, les Marocaines devront faire attention aux jeux aériens des Français. Parce que les Françaises, dans ce domaine-là, sont très dangereuses, en particulier et leur capitaine, et qui est à près d'un mètre 90. Donc, face au petit gabarit marocain, cela peut poser des problèmes. Donc, on aura une sorte d'opposition de style dans le match. Mais seulement, les Marocaines n'ont rien à perdre. Elles doivent se lancer dans la bagarre, surtout, il y a aussi un ingrédient qui peut les aider à le faire. chaque fois qu'une équipe africaine rencontre un pays, un ancien pays colonisateur, monte sur ses ergots et fait des dégâts. C'est le cas pour le Sénégal et chez les garçons en 2002 qui avaient battu la France, tout comme la Tunisie à la dernière Coupe du Monde. Donc, le moindre mal qu'on peut souhaiter aux courageuses marocaines, c'est de suivre la même voie.
Voilà, le moindre mal qu'on peut souhaiter donc aux courageuses lions de l'Atlas, c'est de suivre la même voie. Alors, Élisée, comment aborder justement ce match-là côté marocain pour faire douter déjà les Bleus?
C'est bien sûr de ne pas encaisser, comme l'a fait le Nigeria aujourd'hui, et de mettre plus la pression sur les Françaises, puisque vous savez, Renat Pedros, un ancien de la maison, il connaît bien sûr le football français pour avoir entraîné l'Olympique Lyonnais, a remporté plusieurs fois le titre de champion de France. On sait que le statut de cette équipe française est composé rien, presque, hein, puisque la majorité vient de l'équipe lyonnaise. Donc vous imaginez donc, Renat Pedros a la possibilité de connaître ses joueurs, ce qui va certainement agacer Renard et Hervé Renard, vous imaginez, et la condition dans laquelle les Français ont abordé cette compétition avec beaucoup avec d'abord le changement de l'entraîneur puis après prendre Hervé Renard, vous imaginez, donc ça a bousculé un peu les choses. Mais aujourd'hui, les Marocains n'ont plus rien à gagner, il faut le dire clairement, puisque le Maroc a déjà réussi sa Coupe du Monde, une première participation et se qualifier pour les huitièmes de finale. Vous imaginez donc, le Maroc n'aura pas la pression sera du côté des Françaises. Donc, d'ici déjà, après l'heure de jeu, si la France ne marque pas, vous imaginez la pression qui sera dans le camp français. Donc, c'est un peu ça. Donc, le Maroc va devoir jouer très fort défensivement. Je l'ai dit, il faut être physiquement au point et éviter surtout les balles aériennes, j'allais dire, puisque on connaît bien sûr Wendy Rena avec sa gabarit, peut bien sûr basculer à lui seul s'il s'agit des coups de pied arrêtés, vous imaginez. Donc les Marocaines doivent forcément éviter les coups de pied arrêtés et être costauds défensivement si déjà dans les prolongations, si déjà elles arrivent à négocier les prolongations, peut-être que, pourquoi pas au tir au but, puisque c'est un match à élimination directe. N'oublions pas, il y aura les prolongations et la séance des tirs au but, et on espère que cette partie, s'il y a tir au but, les Marocaines seront à droite et contrairement aux Nigérianes.
Je le disais, le Maroc est le seul espoir du continent. Le Nigeria, justement, s'est incliné devant l'Angleterre aujourd'hui en huitième de finale. Alors, Amdine, les Super Falcons ont poussé les Anglaises, championnes d'Europe en titre, il faut le rappeler, c'est important, jusque dans leur dernier retranchement 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, mais cela n'a pas suffi.
Oui, tout à fait. Yacouba, vous avez raison, hein, les Nigérianes sont éliminées, mais elles sont sorties, hein, les armes à la main, puisqu'elles n'ont été éliminées qu'à la suite de tirs au but. Score de la rencontre 4-2, hein, 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Je dirais même que les Nigériennes vont nourrir quelques regrets puisqu'elles ont bousculé cette équipe anglaise, vous l'avez dit tantôt, championne d'Europe. Elles l'ont bousculé, elles les ont malmenées par moment et elles ont même eu la chance après la 88e minute lorsque les Anglaises ont été réduites à 10 après l'expulsion de Laurent pour un carton rouge. Elles ont eu durant les prolongations une très belle occasion, malheureusement, qu'elles ont ratée. Après, il y a eu la série fatidique de la série au tir au but. Là, les Anglaises n'ont pas tremblé. Elles ont été très adroites, mais je pense que les Nigérianes ont déjà fait ce qu'elles devaient faire. L'Afrique est fière de ses Nigérians, comme l'Afrique est fière des Sud-Africaines et des Marocaines. Je dirais, c'est vrai que c'est à la fin du bal qu'on paye les Bénigéens, mais sachez que l'Afrique est fière de ses représentants, Yacouba.
Alors, Élisée, je reviens à vous, hein, avant de passer à Jules. Alors, qu'est-ce qui a manqué aux Super Falcons aujourd'hui pour venir à bout justement des Anglaises?
Elle ne s'y attendait pas du tout. C'est vrai qu'en face, c'était les championnes d'Europe en titre. Et à un moment donné, elles ont commencé par croire. Surtout après le rouge qu'a obtenu le meilleur joueur anglais, James, sur ce tac-là. Pour avoir marché, j'allais dire, sur la joueuse nigériane. Vous imaginez, déjà, le Nigeria a vendangé beaucoup était placé comme un outsider, il faut le dire. Donc, les Nigériens ne s'y attendaient pas forcément que le match pouvait se basculer à cette manière-là. Donc, à un moment donné, elles avaient la pression pour aller marquer. Et ce qui leur a manqué, c'est un peu l'état d'esprit. Les Nigériennes ont manqué un peu de finition. Elles ont manqué un peu de calme devant les buts. C'est ça qui les a manqués. Sinon, elles auraient pu déjà marquer durant les prolongations. Et après, au tir au but, bon, ça peut-être que elles se sont trop données dans les 120 minutes et la condition physique a eu raison d'elles, puisque étant déjà fatiguées, vous imaginez, donc elles étaient maladroites au moment de tirer les pénalties. Donc ce qui a manqué forcément aux Nigérianes, c'est un peu de calme. Elles étaient tellement pressées pour prendre l'avantage devant les Anglaises.
Les Super Falcons sortent de la compétition sans atteindre les quarts de finale, hein, comme au Mondial 1999. C'est leur meilleure performance jusqu'ici en tout cas. L'Angleterre disputera son quart samedi contre la Colombie ou la Jamaïque. Et de son côté, l'Australie, pays co-organisateur du Mondial, s'est qualifiée en battant le Danemark 2-0 avant le Nigeria. L'Afrique du Sud a été battue 2-0 également par les Pays-Bas. Alors Jules, l'euphorie, hein, on va l'appeler comme ça, des Banyana Banyana est vite retombée.
Oui, on peut le dire, mais sinon, globalement, le parcours de l'Afrique du Sud a été satisfaisant. Nous avons ici trouvé une équipe qui, tout au long de ces rencontres, quels que soient les adversaires qu'on vous présentait, comme des terreurs comme la Suède ou bien les Pays-Bas, qui sont des habitués des podiums en Coupe du Monde en Euro, les Sud-Africaines ont pris le jeu à leur compte et elles ont pratiqué le jeu qu'elles ont appris à pratiquer dans leurs écoles de football, c'est-à-dire tenir le ballon et trouver l'adversaire du ballon. Et alors, on s'est retrouvé dans des situations où elles encaissaient des buts, mais elles savaient réagir et inverser la tendance pendant toutes leurs rencontres. Comme les Bataves, elles ont eu la maladresse, disons que la malchance d'encaisser un but matinal dès la 8e minute, qui les a amenés encore à plus se découvrir. Ça fait donc que le but du break de l'équipe hollandaise qui arrive à la 67e minute survient à la suite d'un contre. Et un contre avec un shoot qui aurait pu être anodin, mais une faute de main de la gardienne qui l'a fait a puni finalement l'équipe. Alors, il faut aussi signaler autre chose que peut-être beaucoup de gens n'ont pas remarqué. L'équipe sud-africaine, la seule équipe africaine à avoir présenté à un si haut niveau un staff technique noir totalement féminin. Il faut vraiment être du pays de Nelson Mandela pour penser à cela. C'est un exemple à suivre.
Voilà, un bon exemple donc à suivre. L'Afrique, hein, a réussi à placer 3 équipes sur 4 en 8e de finale. Élysée, on le sait, les équipes africaines étaient placées quand même dans les poules assez relevées et donc réussir à sortir 3 d'affaires, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est inédit d'ailleurs. C'est une très bonne affaire, on pourra le dire, puisque c'était pas évident. Outre le Nigeria, l'Afrique du Sud, c'était mal barré, hein, pour les Zambiennes et les Marocaines qui étaient à leur toute première participation. Vous imaginez se faire battre littéralement 6-0 et 5-0, puis un second match où les Zambiennes ont reçu encore une autre correction. Les Marocaines ont dû se remodeler, hein, pour pouvoir bien réagir. Et puis après, les Sud-Africaines qui n'ont pas raté l'ultime rencontre qui leur permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc, outre le Nigeria qui a montré qu'il a plus d'expérience que les autres, l'Afrique du Sud a pratiqué un très bon football avec un jeu très technique. Hein. Ah ben, c'est vrai, c'est des joueurs à petit gabarit. Donc, et elles avaient la facilité de bien faire circuler le ballon. Après ça, le Maroc avec son sélectionneur, Renat Pezos, qui a également une très bonne expérience concernant le football féminin. Vous imaginez donc, ce n'était pas attendu à ce niveau de la compétition. On pensait que seul le Nigeria pouvait bien représenter le continent, j'allais dire. Donc au finish, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc ont pu se qualifier pour les huitièmes de finale. La Zambie a connu un apprentissage très 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 difficile. Cette équipe était déjà présente lors des derniers JO, donc vous imaginez, elle va continuer par apprendre et on espère que très bientôt, peut-être dans 4 ans, on aura enfin une équipe africaine qualifiée pour les demi-finales.
Alors, Jules, à entendre Élysée, on dira simplement que quoi qu'il arrive au Maroc, l'Afrique aura réussi son mondial féminin.
C'est exact. Avec le Maroc qui venait pour, en quelque sorte, apprendre, ainsi que la Zambie, on se retrouve avec peut-être l'équipe qui est venue apprendre, qui risque d'aller en quart de finale. Et je cite le Maroc. Bon, à côté de cela, de l'autre côté, la Zambie, en quelque sorte, n'avait pas les moyens humains ni les repères internationaux suffisants pour faire une grande compétition, a quand même redressé la tête face au Costa Rica en dernière rencontre, ce qui montre que cette équipe a appris et à travers les compétitions intermédiaires des jeunes et des plus jeunes encore, et cette équipe apprendra de plus en plus dans ses joutes internationales et on peut compter sur elle pour les années qui suivent. Le palmarès, et en tout cas, les résultats de l'Afrique lors de cette Coupe du Monde sont réellement satisfaisants et par rapport à l'Amérique du Sud, par exemple, on retrouve le Brésil qui est éliminé. Et par rapport à l'Amérique tout court, on retrouve les États-Unis qui sont éliminés en huitième de finale. On peut dire que l'Afrique peut quand même dire qu'elle a redressé la tête face à des adversaires qui posaient plus fort.
Alors Amdine, je l'évoquais justement, ça a été un mondial de surprises. Le Brésil, les États-Unis, le Canada entre au train, out.
Après, sur le premier tour, l'Allemagne qui est deuxième au niveau du classement FIFA. C'est pour vous dire comment la qualification du Maroc est vraiment historique et à prendre en compte. Donc, c'est le mondial de surprise, vous l'avez dit. Les États-Unis qui ont été éliminés, vraiment, j'ai aimé cette compétition. J'ai aimé quand même la prestation des Africains. J'ai aimé aussi le nivellement de valeur. Il y a un nivellement de valeur vers le haut, donc les équipes supposées faire sont en train quand même de progresser et je pense que c'est une bonne chose pour une compétition féminine comme la grande messe du football continental version dame Yakuba.
Fin hier des 9e jeux de la francophonie, Kinshasa a vibré durant donc 10 jours de compétition, malgré beaucoup d'inquiétudes qui se sont déroulées bien avant le début des compétitions. Le point avec l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale congolaise, Roger Muntu.
La cérémonie de clôture du 9e jeu de la francophonie a marqué la fin d'une période exceptionnelle de célébration de la diversité culturelle, du sport et de l'amitié entre les nations francophones. Au terme de plusieurs jours de preuves sportives, de performances artistiques et de rencontres culturelles, cet événement mémorable s'est achevé en apothéose en laissant place à une réflexion sur l'importance du rassemblement et de la coopération au sein de la francophonie.
Cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique. Nous tenons aussi à remercier et à féliciter tous les athlètes et artistes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et nous ont fait vivre des moments d'émotion intense, de joie et d'inspiration.
On a interviewé les Kinois ici, les Congolais qui sont venus participer à ce 9e jeu de la francophonie pour avoir un peu leur réaction à cette clôture de ce 9e jeu de la francophonie. Suivez ce qu'ils ont dit.
C'est la toute première fois pour nous. J'étais à Kinshasa de vivre quelque chose de pareil, quelque chose de grand et surtout de voir ce mélange de cultures. C'est un truc qui n'arrive pas à tout moment. Mais moi, c'est une première fois. Alors, j'ai dit que c'était bien, ça s'est bien passé, gloire à Dieu. Et nous sommes très contents. Et on remercie aussi notre président pour ça.
C'est la fin, c'est parce que pour le jeu de la francophonie, c'est le jeu de cette derrière moi. Il y a besoin de tout ça, c'est la fin qui se passe ici, à Kinshasa. Et nous sommes ici pour courir, pour montrer que notre église, qui a plusieurs concerts encore à effectuer, mais ici, nous pouvons assister au jeu de la francophonie.
Voilà, Roger Muntu qui a décidément perdu la voix. En tout cas, bon boulot Roger, merci beaucoup. Au terme de ces Jeux culturels et sportifs, c'est le Maroc qui vient en tête du classement des médailles avec 58, dont 23 en or devant la Roumanie et le Cameroun. Amine Birouk fait le point.
38, c'est le record de médailles remportées par le Maroc lors des Jeux de la Francophonie qui viennent de se conclure à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cette 9e édition a été largement dominée par les représentants du royaume chérifien, avec notamment les 42 médailles ramenées par l'athlétisme marocain qui a su planer sur le stade des martyrs, avec notamment parfois des courses remportées par les Marocains qui ont trusté les trois médailles et donc le podium. Il y a eu également le cyclisme où le royaume chérifien a brillé et d'autres disciplines où les représentants du Maroc se sont plutôt bien débrouillés, comme c'est le cas du judo ou même de la lutte libre et la lutte africaine avec deux médailles. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir aussi revoir le format des Jeux de la Francophonie, qui n'est plus réservé qu'à quelques disciplines, où les meilleurs athlètes et les meilleurs sportifs ne font pas acte de présence. Et on l'aura remarqué, pour la première fois, la France ne figure pas dans le trio de tête au tableau des médailles, puisque derrière le Maroc, il y a la Roumanie et surtout le Cameroun qui a su tirer son épingle du jeu au cours d'une édition où la République démocratique du Congo a pu tenir ses engagements avec des infrastructures aux normes et un accueil, un engouement populaire, que ce soit pour les compétitions sportives, mais également pour les compétitions culturelles et artistiques qui étaient en parallèle avec la semaine de compétition.
Alors, Jules, il y a eu beaucoup de bruit avant ces 9e jeux de la Francophonie. Finalement, les compétitions, on va les appeler comme ça, des différentes épreuves, se sont très bien passées en 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez retenu justement de ces jeux à Kinshasa?
Oui, il y avait le sport et ce qu'on peut retenir, c'est que les performances ont été quand même meilleures que dans le passé, mais la plus grande réussite est surtout à trouver dans l'ambiance festive et fraternelle qui a régné pendant tous ces jeux. On était quand même dans le pays de la rumba reine et de la musique tropicale, et une musique qui a clôturé aussi ce grand rendez-vous avec ma foi des performances et des décisions qui ont vibré dans la nuit et pendant toute la fin de la cérémonie de clôture qui était prévue pour être plus courte mais qui a finalement été très longue.
Voilà, un autre clap de fin, celui de l'Afro-basket féminin à Kigali au Rwanda avec le sacre du Nigeria, vainqueur du Sénégal en finale 84-74. Amdine, pas de 12e titre pour les Sénégalaises. Rapidement.
Pas de 12e titre pour les Sénégalaises, hein, qui rêvaient quand même d'inscrire le nom pour la 12e fois et reconquérir un titre que les Lions avaient perdu depuis 8 ans, puisque le dernier trophée continental des Lions remonte à 2015 à Yaoundé. Mais les Lions sont tombés sur une excellente équipe du Nigeria, 4 titres d'affilée. Il fallait le faire et elles l'ont fait. Elle égale d'ailleurs le record du Sénégal qui avait gagné ce trophée à 4 reprises consécutivement. Mais en ce moment, le Nigeria est la meilleure équipe africaine. Le Nigeria qui avait des préparations, des cadres au privé de retraite, elles ont commencé ces préparations il y a 4 semaines de la compétition. Mais cela n'a pas empêché aux Nigériens de survoler de fort belle manière cette compétition. Elles sont les meilleures. Elles ont été extraordinaires et je pense que c'est un titre mérité. Et le Nigeria, je pense, va continuer à dominer le basketball africain au niveau féminin parce que vraiment c'est une équipe, un rouleau compresseur. Moi, je suis tombé sous le charme de ces Nigériens qui ont inscrit également l'histoire, hein, puisque c'est la première fois qu'une femme coach remporte quand même cette Coupe d'Afrique des Nations. Elle s'appelle Rena Ouakaman. Elle a 34 ans, elle vient de gagner cette Coupe d'Afrique pour la première fois du soir, une dame. Honneur aux dames, décidément, Yakuba.
Merci Amdine Sy. C'est un 4e titre consécutif hein, pour les 10 Tigers, leur 6e au total. Le Mali complète le podium après avoir remporté la 3e place. Succès donc facile, hein, il faut le reconnaître, 89-51 contre le Rwanda. C'est ici que nous refermons ce numéro de Sporama. Merci en tout cas à nos consultants Élisée Mkwatine, Amine Birouk, le doyen Jules Valentin Ngoué et Amdine Sy, bien sûr. Merci à vous, hein, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute de cette émission réalisée par Lionel Gaïma. Je suis Yakuba Ouédraogo. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, dans quelques secondes, une nouvelle édition du journal avec Jean-Roger Billon. Au revoir.